Bien, donc, le cousin Ponce, roman parisien. Alors, j'ai conçu cette intervention de la manière qui soit la plus utile aux agrégatifs. J'examinerai trois éléments importants, me semble-t-il, en tout cas nécessaires. La topographie, la physiologie et l'idéologie. Alors, pour ce qui est de la topographie parisienne, vous avez 128 occurrences de Paris dans le roman, sans compter les deux mentions dans les titres des chapitres 42 et 68, 23 de Parisiens ou Parisiennes, donc la cause est entendue. Hein. Si les personnages, si l'intrigue des passions, si les entreprises criminelles mises en scène seraient parfaitement plausibles en fort en province, hein, où se trouvent aussi des parents pauvres ou persécutés, Pierrette, Ursule Mérouet, d'autres, le roman relève bien des scènes de la vie parisienne et tout ce qui relève de la géographie urbaine, de sa physiologie et de son idéologie, tout compose un tableau analytique du Paris de la monarchie de Juillet. Alors, j'ai composé un tableau récapitulatif de tous les lieux parisiens dont je vais vous épargner la lecture, mais peut-être c'est un tableau qui pourrait être mis en ligne, je ne sais pas, pour les agrégatifs, avec les 4 quartiers, les 34 rues, boulevards, places et les 22 établissements parisiens qui sont mentionnés. L'examen de ce tableau montre quoi ? Que pour ce qui est des quartiers, rues et établissements, pour commencer, le Paris du roman se réduit pour l'essentiel à quelques ensembles, le quartier du Marais, les quartiers où habitent les Camusot et les Popinot, auxquels on ajoutera les théâtres, essentiellement le théâtre Feydeau et le théâtre Gaudissart. Établissement fictif, comme vous savez, mais situé sur le boulevard, ainsi que toutes les voies qui le relient au reste du Paris du Cousin Ponce. Bon, Ponce et Schmuck résident rue de Normandie, 22 occurrences hein, de la rue de Normandie, dans le quartier du Marais, quartier incidemment que Balzac connaît bien puisqu'il y a résidé dans sa jeunesse. Et le quartier qui était occupé par une partie de la noblesse avant la Révolution a complètement changé de physionomie et de population après celle-ci pour devenir un quartier populaire que la bourgeoisie investit un peu, commencer à installer quelques petites industries. Par exemple, c'est là que se trouve la fabrique de la parfumerie de César Birotteau. Dans la comédie humaine en général, le quartier du Marais est un quartier silencieux, vivant quasiment en autarcie, peuplé de sédentaires où il y a beaucoup d'églises et de curés. Signe des temps, d'ailleurs, le restaurant du Cadran Bleu, qui est mentionné à plusieurs reprises, vous vous souvenez que la Cibot a été écaillère au Cadran Bleu, qui est situé en lisière du Marais, qui était très célèbre sous la Restauration, est entré en décadence au moment où se déroule l'intrigue du cousin Ponce, depuis d'ailleurs que le boulevard des Italiens a commencé avant 1830 à prendre le pas sur le boulevard du Temple, et la Cibot l'a donc quitté un peu avant son déclin à l'âge de 28 ans, hein, page 97. Plusieurs voies du quartier, dans sa vicinité ou son arrondissement, sont mentionnées. La principale étant la rue de Normandie, bien sûr, mais vous avez les rues Boucherat, Charlot, de la Perle, Fraisier, habite rue de la Perle, d'Orléans, où gîte le docteur Poulain et Madame Cantinet, la rue Saint-Louis, où se trouve l'étude du notaire Trognon, Saint-François, vieille du Temple, où exerce Madame Fontaine, la voyante, l'oracle du Marais, la rue de Lappe, où Ponce a trouvé chez le brocanteur Monistrol l'éventail qu'il offre à la présidente, les boulevards du Temple et les boulevards Beaumarchais. Donc voilà un premier ensemble qui est ce quartier du Marais. J'ouvre ici une parenthèse, ne le confondez absolument pas avec ce qu'est le quartier du Marais aujourd'hui. Hein, la mutation de la population a complètement changé l'aspect du quartier du Marais. Hein. Donc, ne pas rabattre sur le Marais du cousin Ponce le Marais contemporain. Deuxième ensemble, les boulevards. Hein, que vous savez que Balzac qualifie les boulevards de la seconde Seine sèche, qui relie les lieux du mouvement, du roman. L'incipit commence boulevard des Italiens, où le héros se rend chez les Camusot de Marville. Et après sa fièvre nerveuse causée par le fiasco du mariage Brunner, Ponce s'y promène de nouveau et reprend des couleurs sur le boulevard Poissonnière, l'air des boulevards ayant une telle puissance, selon Balzac, puisque la foule y fait circuler un fluide vital salutaire. Page 150. Comme le soulignait en son temps André Laurent, c'est l'occasion pour le romancier de recycler des considérations exprimées dans son Histoire et physiologie des boulevards de Paris de 1845, qu'il avait publié dans Le Diable à Paris, et où se trouve l'image fluviale que je citais tout à l'heure, la seconde scène sèche. Et le contraste entre l'aspect du personnage, le cousin Ponce, et l'élégance de mise sur cette artère fréquentée par les dandys, lieu de prédilection des flâneurs, se trouve ainsi poussé à l'extrême. C'est donc sur le grand théâtre des boulevards parisiens que se joue, je cite, « un drame continu joué gratis par les Français au profit de l'art ». Page 57. Rémoninck, de son côté, rêve d'un magasin où il pourrait installer la Cibot, soit boulevard de la Madeleine, page 294, soit boulevard des Capucines, page 321, artères qui sont encore contrastées, selon Balzac, mais artères passantes, truffées de boutiques et faisant figure de graal du commerce pour le brocanteur auvergnat. En cela, il se trouve en phase avec l'essor du Paris des affaires, comme s'il avait lu Balzac et son histoire, je cite, « De la rue du Faubourg du Temple à la rue Charlot, où grouillait tout Paris, la vie du boulevard s'est transportée en 1815 au boulevard du Panorama, en 1820 elle s'est fixée au boulevard dit de Gand, et maintenant elle tend à remonter vers la Madeleine. » Troisième ensemble, les quartiers où habitent les Camusot et les Popinot. La maison des Camusot de Marville se trouve dans l'ancienne demeure d'un des plus puissants financiers du temps de Louis XV, page 79, et elle est située rue de Hanovre, dans le quartier dit quartier Feydeau de l'époque, en lisière sud du quartier de la Chaussée-d'Antin, le quartier des nouveaux riches, le quartier de la nouvelle bourgeoisie à l'époque de Balzac, mais déjà depuis la Restauration, même déjà depuis un peu l'Empire. C'est effectivement dans ces quartiers que les financiers s'établissent dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et les premières du XIXe. Popinot, quant à lui, demeure rue Basse du Rempart, tout près du boulevard de la Madeleine, dans un quartier cossu. Je rappelle que son père est parfumeur rue des Lombards, où se trouvait une grande densité de marchands. Donc là, on est dans une topographie parisienne très précise que Balzac connaît admirablement. Et enfin, chaussée des Minimes, près de la place Royale, l'actuelle place des Vosges, Magus possède, je cite, un vieil hôtel acheté pour un morceau de pain, comme on dit, en 1831. Ce qui, en somme, fait de lui l'un des profiteurs de Juillet. Cet ancien hôtel de Maulincourt, alors cet ancien hôtel de Maulincourt n'existe pas, mais évidemment tout Balzacien pense à Maulincourt de Ferragus en 1833, contient un fastueux appartement décoré sous Louis XV et a échappé aux déprédations de la Révolution. Quelques autres figures secondaires du roman peuvent être mentionnées, le tailleur Graff, qui est établi rue de Richelieu, dans un quartier huppé, proche de la rue du Mail, où son hôtel du Rhin, tenu par le frère du tailleur, voit riche en hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. Notons ici le contraste entre ces logis des autres Allemands du roman, Fritz et Wilhelm, et celui de Schmuck, qui double en mineur l'opposition entre le Paris de Ponce et celui de ses cousins. Nombre de bâtiments, enfin, monuments, bâtiments, places, ne font l'objet que de simples mentions, comme autant de hauts lieux de la capitale, qu'ils soient des lieux institutionnels, des lieux de plaisir, des lieux prestigieux, qui inscrivent dans le roman des points de repère, autant de signes urbains riches de connotations historiques, sociales ou symboliques. Ce qui permet à Balzac, au fond, de faire l'économie d'un certain nombre de descriptions. Vous avez comme une série de rappels, comme une série de mentions, qui sont une ultime somme balzacienne du Paris, de l'époque. Le théâtre, donc mentionnons rapidement, le théâtre Feydeau, le théâtre des variétés, celui de l'ambigu comique, celui du cirque olympique, les places royales et de la Concorde, le musée de Cluny, le café anglais, le café turc, le cadran bleu, la halle, les Tuileries, le palais de justice, l'hôtel de ville, la prison de la conciergerie, celle de Saint-Lazare, celle de Clichy, que connaît bien Balzac, pour l'avoir fréquenté un temps, la barrière Saint-Jacques, où se tenaient les exécutions capitales, l'hospice des enfants trouvés, l'asile de Charenton, le cimetière de l'Est, autrement dit le Père-Lachaise. Vous avez donc les salles de spectacle, les lieux de sociabilité, les lieux de la justice, de la santé, du pouvoir politique et de la mort. Tout ce que l'espace urbain contient, dispose et régule se trouve ainsi évoqué, complétant le dispositif des voies de circulation. Il n'est pas jusqu'à la modernité des transports qui affleure dans le roman, avec la citation des omnibus, page 297, et du chemin de fer, page 269. Tout se passe comme si simplement nommer les endroits et les établissements suffisait à créer non seulement un effet référentiel, mais aussi à établir une connivence par la familiarité que le lecteur entretient avec le Paris réel, mais surtout avec le Paris de Balzac. Arrêtons-nous un instant sur les théâtres, eu égard à la profession de nos deux casse-noisettes et aux figures de Gaudissart, Héloïse Bristou et Topinard. En effet, si la quasi-totalité des théâtres parisiens évoqués dans la Comédie humaine existait réellement et accède au statut d'espace romanesque privilégié, celui de Gaudissart est une exception, puisque c'est un théâtre fictif. Vous savez que le projet de Gaudissart de racheter un théâtre du boulevard en faillite pour fonder en 1834, je cite, « un opéra pour le peuple », page 74, il est possible, si ce qu'en dit Olivier Barra est vérifiable, et je crois que c'est tout à fait vérifiable, ce pourrait être un écho des débats contemporains à l'écriture du roman autour de l'ouverture en 1847 de l'Opéra National dans l'ancienne salle du Cirque Olympique qui visait à offrir un débouché aux jeunes compositeurs et à donner accès à l'opéra à un public plus large. Donc voilà pour une sorte d'inventaire rapide de la topographie parisienne dans laquelle il faut maintenant mentionner quelques trajets. Les déambulations de Pons le conduisent de son immeuble de la rue de Normandie au théâtre Feydeau, où il va travailler jusqu'à sa fermeture, puis au théâtre de Gaudissart, sur le boulevard, ainsi qu'aux résidences des Camusot, jeunes et vieux, des Popinot et de Cardot. Autrement dit, les lieux du firmament bourgeois, page 78. Ainsi, bien entendu, que chez les antiquaires et brocanteurs. Schmuck, quant à lui, ne se déplace guère que de son domicile au théâtre. Sa seule véritable escapade, forcée, va le conduire chez Topinard, dans la misérable cité Bordin, sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure. Le gang du Marais, à l'exception de Fraisier, circule dans le quartier en multiples allers-retours, le temps d'organiser le complot, et ils en viennent même à se rencontrer en cheminant l'un vers l'autre, page 258. À moitié chemin de la rue de Normandie à la rue de la Perle, la Cibot trouve à Fraisier qui venait chez elle, tant il était impatient d'avoir, selon son expression, les éléments de l'affaire. Fraisier va élargir son périmètre en se rendant chez la présidente Camusot, retourner à Mantes par le chemin de fer, c'est la ligne que j'ai empruntée ce matin, et le train n'était pas en retard, afin de convaincre la présidente de son efficacité par les attestations qu'il obtiendra auprès de Leboeuf et de Madame Vatinelle, puisque les Camusot habitaient Mantes quand le juge y exerçait. Se constitue ainsi une manière d'alliance d'anciens mantais devenus parisiens, une manière de clin d'œil balsacien, un passage de scènes antérieures de la vie de province à celle de la vie parisienne, car pour se situer dans la Seine-et-Oise d'alors, Mantes n'en est pas moins une petite ville de cette province qui, chez Balzac, commence dès qu'on a quitté la banlieue, les villages et bourgades qui jouxtent immédiatement la capitale. Il y a également une petite mention de la Normandie avec l'arrondissement de Bolbec où la présidente médite d'y faire élire député son mari. Enfin, les personnages nécessaires tant aux obsèques qu'on manœuvre autour de l'héritage vont se trouver dans le voisinage de la rue de Normandie ou bien vont faire le trajet entre le quartier du Marais et le cimetière du Père-Lachaise. Autant de pérégrinations courtes qui tissent un véritable siège autour du pauvre Schmuck. Magus, quant à lui, s'il parcourt toute l'Europe en quête de nouvelles pièces pour sa collection, page 184, parcourt essentiellement dans le roman le trajet de son domicile près de la place des Vosges vers le marais de Pons, situé dans le même arrondissement de l'époque. Petite parenthèse, hein, comme vous le savez, le Paris de Balzac est un Paris de 12 arrondissements qui compte 48 quartiers. Il y avait 4 quartiers par arrondissement qui ont été un petit peu redessinés en 1850. Le Paris d'aujourd'hui, c'est 20 arrondissements. La numérotation a complètement changé et il y a 80 quartiers. On a donc affaire à une circulation parisienne réduite, concentrée, qui rythme le drame par les tensions entre ces deux pôles du Paris riche et du Paris populaire. Par une procédure comparable à celle de la nomination des lieux, le roman condense une essence parisienne et fait ainsi l'économie de long développement, ce qui explique qu'on a peu de descriptions. Certes, sont détaillés quelques intérieurs, le musée Pons, le musée de Magus, l'antre de la voyante Madame Fontaine, l'appartement du docteur Poulain, l'étude de Frézier. Mais on va relever peu de descriptions vraiment circonstanciées des rues et bâtiments de Paris, comme si là encore, dénomination, localisation se suffisait à elle-même, comme si le lecteur des scènes de la vie parisienne se voyait considéré comme un familier du Paris balzacien. Dès lors, la présence d'une description majeure va attirer d'autant plus notre attention. C'est celle de la cité Bordin. Avec le logement de la pauvre et honnête famille Topinard. Et cette description est justifiée tant par la mise en scène du désarroi et des avanies que subit Schmuck, que par le contraste entre la générosité de Topinard et son habitat misérable. Habitat misérable qualifié de cancer de Paris, page 366, qui se donne comme, je cite, un faubourg Saint-Antoine en miniature, autrement dit, le quartier ouvrier populaire du Paris de l'époque. Espace ruche qui est une ruche grouillante où la population est en harmonie avec les choses et les lieux, page 366. Le roman s'ouvre ainsi à la mise en situation du peuple des fabriques, peuple intelligent dans les travaux manuels, mais dont l'intelligence s'y absorbe. Page 366-67. Peuple, comme vous le savez, relativement peu présent dans la comédie humaine, ce qui confère d'autant plus de relief à ces pages. Et donc, l'horrible cité va donner lieu à une physionomie des lieux, partie prenante de la physionomie des espaces parisiens. Donc, deuxième ensemble de considérations, physiologie parisienne. Commençons par les Parisiens en général. L'expression « les gens de Paris » apparaît deux fois, 53 et 217, mais le genre parisien est inscrit dans le texte qui s'affiche comme observation de, je cite, « la nature sociale et parisienne », page 174. Le roman va énumérer un certain nombre des traits caractéristiques de cette espèce sociale. Un sourire particulier qui dit tant de choses ironiques, moqueuses ou compatissantes, mais qui, pour animer le visage du Parisien blasé sur tous les spectacles possibles, exige de hautes curiosités vivantes. Page 53, une citation parmi tant d'autres. Vont s'ajouter quelques types particuliers, simplement esquissés. L'artiste, le gamin parisien, qui réveille dans les imaginations bourgeoises les jovialités les plus mirobolantes. Page 58. La bêtise de l'épicier parisien, page 69. Le prêteur à la petite semaine, qui est à la haute banque, ce que M. Frézier était à la compagnie des avoués, page 227. L'ensemble de ceux qui se plongent dans l'abreuvoir à Paris, l'abreuvoir, c'est tous ceux qui tournent autour de la mort, hein, des obsèques, ou encore les monomanes, tribu parisienne à part, page 188. Et pour ce qui est des traits culturels, psychologiques, moraux des Parisiens, le texte va les rassembler en quelques traits, quelques exemples. On ne peut se figurer combien les Parisiens sont ignorants et exclusifs. Ils ne savent que ce qu'on leur apprend quand ils veulent l'apprendre, page 86. Le marasme parisien, dans lequel sombre ponce, il y a donc une qualité essentiellement parisienne du marasme, page 202. Et enfin, page 220, par certains moments, le Parisien est réfractaire au succès. Quelques citations parmi tant d'autres. Physiologie plus spécifique, celle des gens du marais, qui sont dans le roman pour l'essentiel des prédateurs, qui vont se voir caractérisés par quelques traits esquissés mais distinctifs, ou par un portrait plus développé comme celui de Frézier. Cela ne les constitue pas stricto sensu comme des types parisiens. La physiognomonie suffit à identifier le rapport du physique et du moral, mais ne le distingue pas spécifiquement comme représentant de l'espèce parisien. Cependant, le docteur Poulain va illustrer la misère décente des habits noirs sans clientèle propre à Paris. De même, une horrible vieille, comme la si bien nommée sauvage, va incarner exemplairement ces figures du petit peuple dégradé par l'avidité. Semble être plus particulièrement parisienne, je cite, « la jalousie dont sont dévorées les professions infimes à Paris », page 99. Quant aux comparses et utilités, clercs de notaire, employés de pompes funèbres ou autres, ils vont donner l'image de leur profession et en parler la langue. Vont relever plus nettement du genre physiologie le couple des Cibot et Rémoninck, les portiers et le brocanteur. sujet obligé des physiologies du temps, comme vous le savez. Le portier et la portière appartiennent de plein droit à la galerie des figures parisiennes que la littérature panoramique affectionne. Il en va de même du brocanteur, parfois assimilé aux voleurs ou à l'escroc, ou aux espèces proches, les regrattiers, les prêteurs sur gage, les fripiers. Dans Le Cousin Pons, Rémoninck va d'ailleurs cumuler les traits du brocanteur et de l'auvergnat. Il en devient deux fois parisien, en somme, puisque les auvergnats constituent une part essentielle de la population parisienne. L'autre brocanteur auvergnat étant Monistrol. Plus généralement, le roman va esquisser une physiologie générale du peuple, tantôt les classes inférieures parisiennes, qui sont marquées par l'influence des tireuses de cartes, page 172, tantôt les ignominies justifiables des petits ménages parisiens, page 217, tantôt la naïveté dans les sentiments, page 201, la peur des officiers ministériels, page 227, les instincts indélébiles, page 172, l'entêtement, page 272, ou enfin l'habitude de subir passivement les plus grandes douleurs morales, page 331. Troisième physiologie notable, celle des habitants des hôtels particuliers, avec le triomphe de la bourgeoisie. Bon, bien sûr, il y a un conte, mais Popinon, c'est un conte de la Révolution de Juillet. Il est le coq de la droguerie, successeur à la tête de la parfumerie La Reine des Roses de Birotteau, qui a été lancée par la Révolution de Juillet, je cite, « au cœur de la politique la plus dynastique », événement qu'il emblématise comme « héros bourgeois ». Page 73, au point que les envieux du quartier des Lombards pensent que la révolution de 1830 a été faite à son profit autant qu'à celui de la branche cadette. Page 80. Gaudissart, son protégé, lui est tout acquis et il va renchérir en louant fort, je cite, « son excellence Monseigneur le Comte Popinot, homme d'esprit et d'un grand caractère, que le roi a eu la sagesse de rappeler dans son conseil et va le désigner comme homme d'État et politique supérieur ». Page 358. À la différence des Camusot, Popinot sait apprécier les belles choses. Notation favorable, immédiatement contrariée par le commentaire auctorial. Je cite, « Depuis son avènement en politique, il avait contracté la manie de collectionner les belles choses, sans doute pour faire opposition à la politique qui collectionne secrètement les actions les plus laides. » Il aura cependant droit à une louange, je cite, « La politique, les vanités de la cour citoyenne n'avaient point gâté le cœur de cet ancien droguiste. » Page 73. Les Camusot, en s'alliant aux Popinot, renforcent, eux, leurs liens familiaux des acteurs et profiteurs de Juillet. En poussant aux ordonnances de Juillet, Camusot n'a-t-il pas causé l'élévation de la maison d'Orléans ? Page 261. Et pour la présidente, il s'agit maintenant d'en tirer tous les bénéfices, faire de son mari un député, agrandir la terre de Marville. Un tel plan exige de l'argent que son baron de beau-père ne peut fournir, entraîné qu'il est au-delà de ses moyens dans les chemins de fer. Page 261. D'où la rapacité de la présidente et le marché passé avec Fraisier. L'ascension bourgeoise des Camusot est donc fondamentalement porteuse de crimes. C'est que la présidente, ignorante, vaniteuse, devenue sèche à 46 ans, à la physionomie dure et désagréable, page 84, présente tous les traits de l'ambitieuse animée par la plus vile jalousie, cette envie presque continue qui la place au fond sur le même plan que Fraisier et Poulain. Autant de parvenus qui doivent tout à Juillet ou à qui l'esprit de Juillet va procurer ce qu'il désire. D'où troisième ensemble de considérations, idéologie à Paris. Tout d'abord, vous avez donc un condensé du Paris de la comédie humaine. Semblable à celle qui parcourt la comédie humaine et qualifie Paris de bourbier, d'égout, de courtisane, d'enfer, etc., de nombreuses formules générales ou particulières sur Paris ou les Parisiens en désignent des spécificités, en définissent le caractère et dessinent un ethos de la vie, de la ville. De même que les lieux parisiens sont le plus souvent nommés, ces éléments de discours parsèment le roman et apparaissent comme des rappels, des marqueurs d'un parisianisme balzacien pointé par le narrateur. À titre d'exemple, on va compter une quarantaine de fois à Paris, signalant un trait distinctif de la capitale, un fait de mœurs, d'opinion, de langage, de comportement, d'habitude. On serait tenté de dire que le roman décline une sorte de « ça c'est Paris » en guise de répertoire à la fois amusant, édifiant et intrigant qui, tel un écho, renvoie aux scènes de la vie privée situées à Paris et aux scènes de la vie parisienne. Petits détails, propositions générales, curiosités soulignées, remarques incidentes, bizarreries, sujets de réflexion, tout compose par touche un tableau moral de Paris. Tableau moral dont on va donner deux ou trois exemples. Le génie est tellement visible en l'homme qu'en se promenant à Paris, les gens les plus ignorants devinent un grand artiste quand il passe. Tous les gens de Paris ont leurs rêves. On a souvent dit que la mort était la fin d'un voyage, mais on ne sait pas à quel point cette similitude est réelle à Paris, etc., etc., etc. Dès les premiers chapitres, le discours auctorial qualifie défavorablement la capitale comme pour mieux singulariser Ponce à la fois comme marginal et comme victime. S'il vit à Paris, il ne s'y fond pas. Il est littéralement déplacé. La mode, qui la fashion parisienne, page 127, les folies éphémères de Paris donnent le ton, définissent la France entière comme pays ou comme nulle part ailleurs. On est sévère pour les grandes choses et dédaigneusement indulgente pour les petites. La raillerie n'y respecte rien. Le génie de l'admiration et de la compréhension y est une rareté, etc., etc. Par conséquent, Ponce est condamné simplement par le fait d'être à Paris. La table y est l'émule de la courtisane. La cherté de la vie a mis les Camusot eux-mêmes presque dans la gêne. Le manque d'argent y produit un désespoir décent, muet, froid, vêtu d'un habit et d'un pantalon noir à couture blanchie, qui rappelle le zinc de la mansarde, d'un gilet de satin luisant, d'un chapeau ménagé saintement, de vieux gants et de chemises en calicot. Page 219. Bien sûr, il n'y a pas de marchands bêtes à Paris, comme dit Ponce, page 83. Certes, il y a plus de 2000 peintres, page 88. Certes, le nombre des marchands d'art a décuplé depuis 20 ans, page 183. Mais la perspective d'ensemble brosse le tableau d'une ville dominée par les questions matérielles, préoccupée d'enrichissement, un enrichissement tout de façade, si l'on peut dire, alors que, malgré juillet, ou peut-être à cause de juillet, il est une misère et un désespoir propre à Paris. Et c'est à Schmuck que se voit confier au style indirect libre, heureusement pour le lecteur traduit pour l'essentiel en français normal, un jugement certes sommaire, mais qui convient à cet esprit simple et bon. Je cite, page 103, « Paris est une tempête perpétuelle, les hommes et les femmes y étaient emportés par un mouvement de valse furieuse, et il ne fallait rien demander au monde qui ne regarde qu'à l'extérieur et bas à l'intérieur. » Pas à l'intérieur. Ville frénétique, dévoratrice, aliénante, qui exhibe ses emplois, ses places, ses objets de toutes les convoitises, puisque, je cite, page 241, habiter Paris est un désir universel, encore exacerbé par la monarchie de juillet. C'est bien ici le Paris de la monarchie de juillet qui est ciblé. Je cite, page 74, à Paris, surtout depuis 1830, personne n'arrive sans pousser quibus cupque viis et très fort une masse effrayante de concurrents. Ce commentaire parfaitement daté, circonstancié, énonce l'essentiel et suffit à caractériser la ville. L'argent régente tout, détermine tout, commande tout, réduit tout aux espèces, aux actions et aux chiffres. Ne s'y oppose que la considération dont jouissent en leur théâtre les deux amis exploités, mais compense-t-elle vraiment ce qu'ils perdent en argent? Quant au manque d'argent, comme l'énonce Poulain, il impose sa fatale conséquence, la mort. Je passe ma vie à voir des gens qui meurent non pas de leur maladie, mais de cette grande et incurable blessure, le manque d'argent, page 156. La période Louis-Philippard est ainsi ramenée aux considérations monétaires, à l'équivalence marchande généralisée, aux ambitions grandes ou petites, aux pratiques commerciales, aux tractations matrimoniales, aux illusions, le tout connoté négativement. Paris est devenue plus que jamais la capitale de l'envie, de la jalousie, de toutes les ambitions, fût-elle mesquine, et le choix de l'intrigue, captation d'héritage, vol légal d'œuvres d'art, balai de prédateurs, vaut comme commentaire. Jeter une lumière crue sur, je cite, ce pays d'ivre, ivre d'égalité, mais où Paris éclate en toute chose, à Paris éclate en toute chose, l'inégalité des conditions, page 334. Et quelle est la meilleure façon de montrer l'inégalité des conditions que de terminer sur la mort? Mourir à Paris, on ne meurt pas à Paris comme ailleurs. Le roman va donc accorder une grande place à l'inscription et à la commercialisation de la mort dans un Paris de profiteurs nécrophages. Qu'a donc de si particulier la mort parisienne ? Non pas tant les formalités et dispositions à prendre que le rythme quasi frénétique des visites professionnelles des coureurs d'affaires, qui, en un théâtre burlesque et sinistre, investissent les lieux de la mairie au domicile du défunt. Courtiers de maisons funéraires, fournisseurs de bière, clercs de notaire, qui se chargent du convoi et de l'achat et de la concession et du service de l'église, maître des cérémonies, qui fournit un manteau de deuil aux pauvres schmucks qui n'en possèdent pas, entouré de cérémoniales, étourdissant schmuck au mépris de sa douleur, qui devient l'enjeu d'une féroce concurrence, la mort apparaît bien comme cet abreuvoir désigné par le titre du chapitre 70. Outre l'intrigue liée à l'héritage, outre les manœuvres de Frézier, l'enterrement de Ponce va donner lieu à une description satirique. C'est que, à Paris, je cite, « le bas clergé de l'église, les pauvres, les croque-morts, les cochers, les fossoyeurs, ces natures spongieuses se retirent gonflées en plongeant dans un corbillard. Ils se nourrissent de la mort. » Le cimetière se donne à la fois comme un sinistre envers de Paris et son déversoir ultime, continuant la confusion entre être et avoir, déshumanisation finale que confirme l'aliénation générale que la ville fait subir à ses habitants. Il n'est que de suivre tout ce qui se trame autour du monument funéraire destiné au cousin Ponce. Pour conclure donc un roman parisien, mais avant tout le roman d'un drame parisien, comme s'il illustrait à la fin de la production balzacienne, qui illustrait de nouveau cette légitimation de l'entreprise romanesque, ce programme, ce quasi-programme annoncé dès 1834 dans le Père Goriot. Les particularités de cette scène pleine d'observations et de couleurs locales ne peuvent être appréciées qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs de boue, vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses et si terriblement agitée qu'il faut je ne sais quoi d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Le cousin Ponce, c'est le roman du spectacle continuel du drame parisien. Ce drame parisien qu'il faut donner à voir et donner à comprendre, voilà en quoi nous avons bien affaire à un roman éminemment parisien. Je vous remercie.